Appel d'air, Céline, sur Radio Grand Ciel. Bienvenue à tous dans cette nouvelle émission d'Appel d'air. Aujourd'hui, je vous propose de partir vers l'Écosse avec quatre romans qui vont nous emmener plus précisément au nord du pays, dans les Highlands. Le roman « Un bûcher sous la neige » de Susan Fletcher nous emmène en février 1692 à Inverary. Corag est une petite jeune femme aux longs cheveux bruns, enfermée dans un cachot. Elle est accusée de sorcellerie et condamnée à mort sur le bûcher. L'exécution de sa sentence est repoussée en attendant la fin des chutes de neige. Corag reçoit la visite du révérend Charles Leslie, un Irlandais venu recueillir son témoignage concernant les événements récents de la vallée de Glencoe. Les membres du clan MacDonald y ont été massacrés par les soldats du roi Guillaume d'Orange. Le révérend cherche en fait des preuves des exactions commises par l'armée du roi. Il est jacobite, le révérend, il est partisan du roi exilé 4 ans plus tôt, Jacques II. Face à son seul et unique visiteur, Corag en profite pour raconter sa vie, elle va prendre son temps. Cette jeune Anglaise a toujours vécu seule avec sa mère, dans la forêt, loin des autres. Sa mère connaissait les vertus des plantes. C'était une femme libre, indépendante, qui n'a jamais voulu se marier. Elle était bien vue lorsqu'elle arrivait à guérir, mais bien vite accusée de sorcellerie dans le cas contraire. Elle avait prédit à Corag une vie froide, dure, à la belle étoile. Lorsqu'elle prend conscience que les villageois voisins deviennent une menace pour elle et sa fille, elle pousse Corag, alors âgée de 16 ans, à galoper vers le nord-ouest. La jeune fille s'enfuit sur sa jument grise, elle chevauche pendant des semaines et trouve enfin refuge en Écosse, dans les Highlands. Elle a trouvé son endroit, comme elle le dit, c'était le bon endroit, le mien car j'étais faite pour lui. Il m'attendait et j'ai fini par le trouver. Dans un paysage splendide, Corag construit sa cabane et mène une vie solitaire. Sa mère lui avait conseillé de se méfier des autres, de ne jamais aimer, d'être juste bienfaisante envers tout ce qui vit. Elle se tient donc à l'écart des villages et finira quand même par entrer en contact avec les membres du clan MacDonald le jour où leur chef, blessé, a besoin d'elle. Cette rencontre marque un tournant dans sa vie. Tout au long du roman, le témoignage de Corag est ponctué par les lettres que le révérend écrit à sa femme Jane. Des lettres dans lesquelles nous découvrons que son opinion sur la jeune femme évolue au fil des jours. Est-elle vraiment une sorcière, comme il en était convaincu au début? Comme le révérend, nous sommes captivés par le récit de Corag. C'est un récit qui nous tient en haleine, visite après visite. Cette jeune fille sait s'émerveiller des choses simples, de la nature qu'elle respecte. Le révérend confie à sa femme qu'elle a la capacité à voir les beautés que nous négligeons. Elle nous transporte dans la région des Highlands, dans ces paysages de terre noire, de montagnes et de lochs noyés par la brume. Un bûcher sous la neige, c'est un roman qui pourrait donner l'impression d'être prévisible, de livrer une histoire déjà racontée par d'autres, mais la romancière anglaise Susan Fletcher réussit avec un style très simple à donner beaucoup de souffle à son roman et à nous livrer une histoire envoûtante. Thank you. Si vous avez vu la série française Les Revenants, vous aurez peut-être reconnu ce morceau tiré de la bande originale. Bande originale que le groupe Mogwai a composée entièrement. Nous allons partir maintenant encore un peu plus au nord de l'Écosse avec le roman L'île des chasseurs d'oiseaux de Peter May. Finn MacLeod est enquêteur à la police d'Édimbourg. Il a perdu son fils il y a peu de temps et vient de reprendre le travail. Il est envoyé sur l'île de Lewis, une île qui fait partie de l'archipel des Hébrides au nord-ouest de l'Écosse. Il va enquêter sur un meurtre qui vient d'y être commis, un meurtre similaire à celui pour lequel il a enquêté quelques mois auparavant à Édimbourg. L'île de Lewis est en fait son île natale à Finn. Il débarque à Stornoway avant de rejoindre les lieux du crime à la pointe nord de l'île, dans le village qu'il a quitté à l'âge de 18 ans. Finn avait oublié à quel point ici le ciel est immense. Il retrouve les paysages forgés par un climat rude, il retrouve les hectares de tourbe, les plages et les montagnes, et surtout il a l'impression que presque rien n'a changé. Il se souvient avec émotion des psaumes chantés en gaélique dans l'église qui lui rappelaient, je cite, « l'esprit de la terre et du paysage, de lutte pour la vie contre la force des événements ». Son arrivée se passe aussi dans un contexte particulier. Un groupe d'une dizaine d'hommes s'apprête à partir chasser le Gouga, le fou de Bassan, sur une petite île située au large, à 100 km de là, une île où vivent uniquement des milliers d'oiseaux. Cette chasse au Gouga, c'est une tradition. Une fois par an, les hommes partent au mois d'août. Une tradition qui perdure, même si dorénavant elle est décriée par les protecteurs de la nature et elle est encadrée par la loi. Finn va mener son enquête. Il connaissait bien la victime, Ange, qui portait mal son nom puisque c'était plutôt une brute, un persécuteur dès la petite enfance. Il avait donc pas mal d'ennemis. Finn retrouve également ses amis d'enfance, son meilleur ami, Arthur, et son premier amour, Marcellie. Son enquête est entrecoupée des souvenirs de son enfance et de son adolescence. On retrouve ainsi l'ambiance de l'île dans les années 60 et 70, des souvenirs qui dévoilent des zones d'ombre dans la vie de notre enquêteur et qui laissent comprendre que son départ s'est fait dans des circonstances assez floues. L'intrigue de Peter May est menée habilement mais tranquillement. Les souvenirs racontés par Finn prennent autant de place que l'enquête et c'est surtout l'ambiance sombre, pesante et pleine de non-dits qui domine tout au long de ce roman. Peter May, avec L'île des chasseurs d'oiseaux, débutait en fait une trilogie. Il a écrit deux autres romans, L'homme de Lewis et Le braconnier du lac perdu, dans lesquels on retrouve le personnage Finn MacLeod. I'm gonna haunt you till your dying day. I'm gonna make you wish you'd never gone away. There beside you every day, through the night time too, and you can't get away, no you can't get away. I'm gonna haunt you, no matter where you try to hide. No one will want you, never keep you satisfied. So softly I will remind you of the ways you let me down. And you can't get away, oh, you'll never get away. Beside you every day, through the night
turn to, and you can't get away. No, you can't get away.
Charlene Spiteri, la chanteuse du groupe Texas, avec un titre tiré de son premier album solo, paru en 2008. Et à l'instant, c'était le groupe Franz Ferdinand, originaire de Glasgow aussi. Leur titre s'intitulait « You're the reason I'm leaving », « Tu es la raison pour laquelle je pars ». Et justement, des raisons de partir, le personnage du roman de Dominique Cooper, il en a plusieurs. Le roman donc de Dominique Cooper s'intitule « Vers l'aube ». C'est l'histoire d'une fuite en avant, comme il est écrit dans le roman, celle de Murdo Munro, un homme de 58 ans, qui vit sur une petite île des Highlands dans l'ouest. Nous sommes au début du mois d'août, presque tout le village est rassemblé dans l'église pour le mariage de sa fille Flora. Murdo est inquiet, avec le départ de sa fille unique, que va devenir sa vie, que va devenir son quotidien ? Il est marié depuis 26 ans à Margaret. C'est un mariage sans véritable amour. Murdo est complètement ignoré par sa femme. Et surtout, il est exclu de la relation fusionnelle entre Margaret et leur fille. Il n'a pas d'amis, il n'a rien à perdre. En pleine cérémonie, Murdo n'en peut plus. Il part, il rentre chez lui. Et après quelques minutes, il est saisi d'une autre impulsion. Il met le feu à sa maison avant de partir. Murdo se sent enfin libre. Il rejoint la forêt, son univers, puisqu'il est garde forestier. C'est le début d'une fuite a priori sans fin. Il va falloir pour Murdo trouver un moyen de quitter l'île, mais comment éviter de prendre le ferry et donc de se faire repérer par la police ? La côte la plus proche est à 5 km. Son objectif est de rejoindre la ferme où vit sa sœur Bessie. Au cours de son périple, Murdo devra se cacher dès qu'il entendra une voix ou une voiture qui approche. Et tout en marchant, il repense à ces années noires qu'il a traversées, à cette vie marquée par la morosité et la résignation. Il est tiraillé entre l'espoir et l'angoisse. Il croit par moments que tout finira bien et il porte, comme il est écrit, des espoirs de joie et savoure cette liberté nouvelle. Et puis parfois, il est saisi par la peur, l'angoisse d'être arrêté et la consternation face à son acte. Quel avenir possible pour cet homme seul et perdu qui se retrouve au cœur de la nature écossaise, une nature qui occupe une place essentielle dans le roman. Au cours de sa fuite, les paysages défilent. On ressent presque aussi le froid la nuit, la chaleur le jour et la pluie qui nous tombe dessus pendant l'orage. On entend le son des ruisseaux, le chant des oiseaux et le bruit du vent dans les arbres. Vers l'aube est une histoire intrigante, puisqu'on se demande jusqu'à la fin comment Murdo va se sortir de cette situation. Le talent de Dominique Cooper, c'est de nous donner envie de suivre cet homme, presque dérisoire, au beau milieu de cette nature omniprésente, magnifiquement décrite. Le groupe Capper Kelly vient d'interpréter Sky Walking Song, une chanson chantée en gaélique. Nous allons maintenant aller encore un peu plus au nord de l'Écosse, au nord des Highlands, plus précisément au nord-est, avec le livre La Grande Musique de Kirstigan. Kirstigan est née en Nouvelle-Zélande, mais elle entretient un rapport étroit avec l'Écosse puisque son père était originaire des Highlands. Elle nous livre avec La Grande Musique un roman particulier, un objet littéraire singulier, construit, nous dit-elle, à partir d'archives liées à une famille des Highlands. Dans la famille Sutherland, on est joueur de cornemuse de père en fils. Depuis la fin du XVIIIe siècle, leur maison, la Maison Grise, est située dans un lieu complètement isolé et fait office de gîte pour les bergers de passage. Elle est peu à peu devenue aussi un lieu reconnu pour l'apprentissage de la cornemuse. Elle est devenue une école réputée. La cornemuse, on la connaît souvent telle qu'elle est jouée dans les pipe bands ou bien telle qu'elle est jouée dans les danses traditionnelles. Ce qui est souvent appelé la petite musique, à l'opposé de la grande musique, donc en gaélique pibroch. La grande musique, c'est une composition particulière, conçue pour une seule cornemuse, un morceau long, lent et mélancolique, conçu au départ pour être joué en extérieur. Le pibroch est construit autour d'une base, appelée le terrain. C'est en fait un thème central autour duquel s'articulent les variations, les mouvements, avant de revenir pour terminer le morceau aux premières notes, celles du terrain. La construction du roman de Kirstigan s'apparente en fait à celle du pibroch. Le terrain, la trame de départ, c'est la fugue au petit matin de John Callum Mackay, 83 ans, avec dans les bras sa petite fille, un nourrisson. Il s'enfuit vers sa cachette secrète, sa cabane, au fond d'une vallée. Il a une idée en tête, finir la composition de son dernier morceau, intitulé « Lamento pour lui-même ». C'est un lamento autour de sa vie et les souvenirs se bousculent dans l'esprit de John. Il se rappelle comment son père, un joueur réputé de cornemuse, lui intimait l'ordre de persister lors des répétitions. Il lui criait « Rejoue-moi ça » et le frappait même parfois. John se rappelle aussi comment à 18 ans, il est parti pour Édimbourg en jurant « Je ne reviendrai pas ». Il a travaillé dans la finance, il s'est marié, a eu un fils Callum dont il n'est pas très proche, et il est revenu à la mort de son père, il est revenu aux origines et s'est remis à jouer de la cornemuse. Dans l'esprit de John, il y a aussi la femme de sa vie, Margaret, la gouvernante de la Maison Grise. Elle est plus jeune que lui, Margaret, elle s'est retrouvée enceinte alors qu'il était déjà marié. Autour de John, nous allons découvrir donc la vie de Margaret, comment elle a élevé leur fille Hélène avec l'homme qu'elle a épousé un peu plus tard, Ian. Hélène qui à son tour est partie pour finalement mieux revenir avec son bébé. On découvrira également Callum, le fils de John, appelé au chevet de son père à la fin de sa vie. Tous ces personnages nous sont dévoilés petit à petit dans les différentes parties de ce roman, les différents mouvements. La grande musique présente un rythme particulier, hypnotique par moments, à l'image de la forme musicale du pibroch. Certains passages, certains moments de la vie des personnages sont ainsi racontés plusieurs fois. Le livre est parfois ponctué de courts passages, presque documentaires. En quelques pages, l'auteur retrace l'histoire de la famille, l'histoire de la région et aussi l'histoire de cette musique. Et dans certaines pages, on entend aussi parfois les voix de Margaret et Hélène présentées comme des retranscriptions d'un enregistrement audio. Le roman comprend également aussi des notes de bas de page et des appendices qu'on n'est pas obligé de lire, comme le précise l'auteur dans sa préface. On doit les considérer, je cite, « comme un paysage situé derrière vous, une vue par une fenêtre ou au-delà d'une porte ouverte, un lieu à explorer seulement si vous désirez y aller ». Les archives évoquées par l'auteur sont-elles vraies? Sont-elles inventées? Kirstigan laisse planer le doute. Ce qu'elle cherche surtout, c'est proposer autre chose qu'un roman classique. Elle voulait proposer une expérience littéraire, susciter des émotions et déstabiliser. Et lorsque certains journalistes comparent son livre à une élégie, elle avoue que ce terme lui convient bien. Comme Kirstigan l'écrit dans sa préface, « La grande musique », c'est, je cite, « moins une histoire qu'un lieu, un monde ». Un livre susceptible de se lire tantôt comme un récit, tantôt comme une histoire, ou même un rêve. Ce roman est publié aux éditions Christian Bourgois. Je vous propose, pour terminer l'émission, du coup, quelques notes de Pibroch, un petit extrait, petit parce que déjà le morceau en entier dure 14 minutes, et puis aussi, comme le dit Kerstigen elle-même, c'est une musique qui n'est pas forcément facile d'accès au premier abord. Merci d'avoir écouté Appel d'air, à bientôt.